le retour de l'actualité sur VOA Afrique. Il sonne 18h30 en temps universel, 13h30 ici à Washington DC. À la une, la grève de la faim de l'opposant ougandais Kizza Besigye après des mois de détention consécutifs à son enlèvement au Kenya. Cet avertissement du nouveau secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, les États-Unis ne toléreront pas une relation déséquilibrée au sein de l'OTAN, a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec les alliés de l'OTAN. Et les discussions entre le Qatar et l'Égypte se poursuivent pour sauver le cessez-le-feu à Gaza. Les efforts de médiation des églises catholiques et protestantes pour mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC.
Nous ne pouvons pas à ce stade arrêter l'initiative à cause des exigences des uns des autres parce que le pays, il faut le voir en grand.
Bon, nous verrons cela dans les dossiers du jour et ne manquez pas la Minute Éco et le sport. D'abord la RDC où les affrontements entre l'armée congolaise et le M23 alliés à des troupes rwandaises se poursuivent dans l'est du pays, mettant ainsi fin à une courte accalmie qui avait suivi un appel à cesser le feu de dirigeants africains. Réunis samedi dernier à un sommet en Tanzanie, les dirigeants d'Afrique australe et de l'Est avaient appelé leurs états-majors à proposer un plan d'application d'un cessez-le-feu inconditionnel d'ici à demain. L'Union africaine qui se réunit samedi pour ce sommet annuel a elle aussi demandé l'arrêt des combats, mais sans mentionner le Rwanda. Nous reviendrons sur les efforts des églises catholiques et protestantes dans les magazines. L'opposant ougandais Kizza Besigye a entamé une grève de la faim lundi pour protester contre sa détention, qu'il estime illégale, suivant son enlèvement au Kenya, selon l'un de ses avocats. Besigye fait face à un procès pour trahison qu'il qualifie d'injuste. Nanit Talani.
Ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, Kizza Besigye lutte contre ce qu'il considère comme une détention illégale. Enlevé en novembre dernier lors d'un déplacement au Kenya, il fait face à une accusation de trahison devant une cour martiale où il risque la peine capitale. Sa femme, Winnie Banima, directrice de Nucida, qualifie cette procédure de simulacre. Confirmant des informations de la presse locale, Erias Lukwago, l'un des avocats de M. Besigye, a fait savoir que son client a cessé de s'alimenter depuis lundi, estimant n'avoir plus d'autres options qu'une grève de la faim pour dénoncer sa détention illégale. « Nous observons malheureusement l'impact de la grève de la faim sur sa santé », a-t-il ajouté. Il note que l'état de son client ne lui permettait pas de participer à certaines audiences devant des tribunaux militaires, alors que la Cour suprême du pays avait jugé inconstitutionnel le jugement de civil par la Cour martiale. Mais Yoweri Museveni avait contesté cette décision, évoquant un instrument utile pour la stabilité. L'armée avait de son côté annoncé qu'elle continuerait le procès de M. Besigye. Après s'être allié à l'opposition il y a 25 ans, Kizza Besigye, 68 ans, s'est présenté 4 fois à la présidentielle, sans succès.
Dans le reste de l'actualité en Afrique, la Cour des comptes du Sénégal a publié ce mercredi un rapport très attendu sur les finances du pays qui confirme que le gouvernement précédent a mal communiqué des données économiques clés, notamment les chiffres de la dette et du déficit. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui est arrivé au pouvoir en avril 2024, a ordonné un audit qui a révélé que sa dette et son déficit budgétaire étaient beaucoup plus importants que ce que l'administration de l'ancien président Macky Sall avait déclaré. À la suite de cet audit, le gouvernement a décidé en juin de ne pas présenter de demande de décaissement supplémentaire au titre de la facilité de crédit triennal de 1,8 milliard de dollars accordé par le Fonds monétaire international. Le FMI a suspendu le programme dans l'attente de l'examen de la Cour des comptes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a déclaré s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de l'ouverture immédiate de négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous nous sommes également mis d'accord pour que nos équipes respectives entament immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président Zelensky de l'Ukraine pour l'informer de la conversation. Ce que je veux faire dès maintenant, a déclaré Trump dans un message publié sur son réseau social Truth. Le Kremlin a déclaré que Poutine et Trump s'étaient entretenus pendant près d'une heure et demie par téléphone et que les deux hommes avaient convenu de se rencontrer. Les États-Unis ne tolérerons plus une relation déséquilibrée au sein de l'OTAN, a souligné ce mercredi le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, lors d'une rencontre avec les membres de l'OTAN à Bruxelles pour accentuer la pression sur les alliés européens de Washington concernant le financement de l'Alliance et l'Ukraine. Jacques Aristide.
L'Europe devra fournir l'écrasante part de la future aide à l'Ukraine, a averti aujourd'hui le nouveau patron du Pentagone, Pete Hegseth. Les États-Unis restent engagés dans l'alliance et en faveur du partenariat de défense avec l'Europe, mais les États-Unis ne toléreront plus une relation déséquilibrée qui encourage la dépendance, a-t-il déclaré au siège de l'OTAN à Bruxelles, à l'ouverture d'une réunion du groupe de contact qui coordonne le soutien militaire à l'Ukraine. Le secrétaire américain à la Défense a jugé irréaliste d'envisager un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014, ce qui exclut la Crimée. Pete Hegseth a ajouté qu'il n'était pas réaliste de songer à une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique après un éventuel accord de paix avec la Russie. Pour être clair, dans le cadre de toute garantie de sécurité, il n'y aura pas de troupes américaines déployées en Ukraine, a-t-il encore affirmé. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est également d'avis que les Européens doivent dépenser considérablement plus pour leur défense.
L'Égypte et le Qatar intensifient leurs efforts pour sauver l'accord de cessez-le-feu à Gaza après les pressions exercées par les États-Unis et Israël pour reprendre les opérations militaires. Mardi, le président américain Donald Trump a averti les Palestiniens que l'enfer se déchaînera si les otages israéliens ne sont pas libérés samedi, comme prévu dans le cadre du cessez-le-feu. Le ministre de la Défense israélien a aussi menacé ce mercredi d'un retour à la guerre si le Hamas ne libérait pas les otages enlevés en Israël et retenus dans la bande de Gaza d'ici à samedi. Le Hamas, qui a annoncé l'arrivée au Caire d'une délégation ce mercredi, a reporté la libération des otages, accusant Israël de violer les conditions du cessez-le-feu. Le secrétaire général de la Ligue arabe juge inacceptable pour le monde arabe de déplacer les Palestiniens de leur territoire. On en parle avec Rosine Moulizero.
Nous les Arabes avons combattu cette idée pendant 100 ans et ne sommes pas prêts à capituler maintenant, a déclaré M. Abdul Gate devant le sommet mondial des gouvernements organisé à Dubaï en réponse à une question sur l'insistance du président américain Donald Trump à vider la bande de Gaza de ses habitants. Recevant mardi le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison-Blanche, M. Trump a une nouvelle fois dit sa volonté d'engager un développement immobilier de la bande de Gaza vidée de ses habitants. « Nous allons posséder Gaza. Nous n'avons pas besoin de l'acheter. Il n'y a rien à acheter », a déclaré mardi le président américain, assurant que le territoire serait placé sous contrôle américain sans expliquer de quelle manière. Les pays arabes ont fermement rejeté la proposition de M. Trump, insistant sur l'objectif d'une solution à deux États du conflit israélo-palestinien, avec un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Pour les Palestiniens qui ont condamné cette proposition, un déplacement évoque la Nakba, catastrophe en arabe, terme désignant l'exode massif qui a suivi la création de l'État d'Israël en 1948.
Parlons météo. Avec de fortes pluies de neige et des pluies verglaçantes qui ont provoqué des centaines d'accidents dans le nord-est des États-Unis, la tempête de neige a provoqué des accidents sur des routes verglacées, entraîné des fermetures d'écoles et privé des milliers de foyers d'électricité. Nathalie Barge.
Certaines parties de la Virginie et de la Virginie occidentale ont accumulé 25 cm de neige en quelques heures. Le Service météorologique national a enregistré des accumulations de glace de près de 2 cm en altitude dans ces États et le Kentucky. Dans le sud de la Virginie occidentale, des autoroutes ont été fermées temporairement. De nombreux semi-remorques se sont retrouvés coincés dans la neige et la glace. Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré l'état d'urgence. La police de l'État a signalé des dizaines d'accidents et plusieurs blessés. Une soixantaine de soldats de la Garde nationale de Virginie ont été mobilisés le long des corridors de voies express dans le sud-ouest de l'État. 20 autres membres de la force de défense de Virginie ont joué un rôle de soutien. Des troupes avec des camions lourds ont été organisées en équipe de tronçonneuses pour aider à dégager les routes et les lignes électriques. Des hélicoptères Black Hawk équipés de moyens de sauvetage étaient également en alerte. Les avertissements de tempête hivernale se sont étendus du Kentucky au sud du New Jersey. Le mélange de neige et de glace devrait se transformer en pluie avec la hausse des températures d'ici mercredi après-midi.
La suite de cette édition Le Monde aujourd'hui, Alexandrine Rollognon avec vous. La minute de l'économie avec Nanit Talani.
Le Niger, le Nigeria et l'Algérie ont signé des accords à Alger pour accélérer la réalisation du gazoduc transsaharien, un projet de 4000 km destiné à transporter le gaz nigérian vers l'Europe. Ce gazoduc acheminera des milliards de mètres cubes de gaz à travers le Niger vers l'Algérie, puis vers l'Union européenne. Les trois pays ont convenu de mettre à jour l'étude de faisabilité, de signer un contrat de compensation et un accord de non-divulgation pour avancer dans ce projet énergétique majeur. Le Sénégal va centraliser la gestion de sa dette publique, a annoncé le ministère des Finances après un rapport de la Cour des comptes qui a révélé une mauvaise communication sur les chiffres de la dette et du déficit sous le gouvernement précédent. Le ministère prévoit une réunion avec les investisseurs mondiaux pour discuter de la situation. Le rapport souligne que plusieurs aspects essentiels de la situation financière du pays, dont la dette et le déficit, ont été sous-estimés.
Merci Nanit Talani. Poursuivons ce segment avec l'actualité sportive. Bonjour Eric Manirakiza.
Bonsoir Alexandrine.
Quatre rencontres à suivre ce soir en Ligue des Champions, comptant pour la deuxième journée des barrages allés.
L'entraîneur de Monaco qui reçoit le Benfica Lisbonne ce mercredi soir en barrage allé de la Ligue des Champions a estimé que les Portugais sont favoris de ce duel, mais que son équipe est capable de passer. Le Bayern Munich du Belge Vincent Kompany, 38 ans, va connaître un premier moment de vérité avec un enchaînement crucial de 5 matchs en 17 jours, à commencer par un déplacement à Glasgow contre le Celtic. Les Belges du club Bruges et les Italiens de l'Atalanta Bergame vont s'affronter pour la première fois. Enfin, le Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas fait face à l'AS Milan. Les deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois depuis 1969.
NBA, Durant atteint la barre des 30 000, les Knicks matent les Pacers.
Kevin Durant est devenu mardi le 8e joueur de l'histoire à atteindre les 30 000 points en NBA en dépit de la défaite des Suns contre les Grizzlies lors d'une soirée qui a aussi vu les New York Knicks vaincre sur le parquet d'Indiana. Contre Memphis, Kevin Durant, 36 ans, dont la moitié en NBA, a rejoint le cercle restreint des joueurs à plus de 30 000 points. Il s'agit de LeBron James, Karim Abdel-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant et Michael Jordan, Dirk Nowitzki ou encore Wilt Chamberlain. Deux autres comme Shaquille O'Neal et Carmelo Anthony complètent la liste des 10 meilleurs marqueurs de l'histoire de la Ligue.
Près de 130 millions d'Américains ont regardé le Super Bowl, nouveau record d'audience.
C'est la plus grosse audience jamais atteinte dans le pays, selon un communiqué du cabinet Nielsen mardi. Les téléspectateurs aux États-Unis ont regardé dimanche sur le câble ou en streaming les Eagles de Philadelphie remporter le Super Bowl avec Taylor Swift et Donald Trump en tribune. L'audience moyenne s'était élevée à 123,4 millions l'année dernière et à 115,1 millions en 2023, déjà des années records. Événement incontournable et spectacle sportif par excellence aux États-Unis, la finale du championnat de football américain attire aussi pour son célèbre show musical de la mi-temps, assuré cette année par le rappeur californien Kendrick Lamar. Les grandes entreprises américaines rivalisent aussi d'imagination pour y placer leur meilleure publicité, devenue un spectacle dans le spectacle, avec de nombreuses stars à l'écran, en comptant les interruptions. Le match dure environ 3h30. La rencontre se jouait à la Nouvelle-Orléans. Elle a été remportée par les Eagles de Philadelphie contre les Kansas City Chiefs, privés d'une troisième couronne d'affilée historique, sous les yeux du président Donald Trump, premier chef d'État américain, à assister à la finale dans les tribunes.
C'était le sport avec Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et merci à vous de nous accompagner dans cette édition Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Alexandrine Juan-Lognon de retour à ce micro. Les magazines de ce mercredi 12 février sur VOA Afrique. Nous allons d'abord en RDC. Les évêques des églises catholiques et protestantes de la RDC ont rencontré les dirigeants de la rébellion du M23 à Goma dans le cadre du pacte social pour la paix qu'ils ont initié pour ramener la paix dans leur pays. Ils entendent par ailleurs rencontrer les chefs d'État de la région, dont Paul Kagame du Rwanda, dans le même cadre. Eddy Isango a joint à Goma le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale CENCO, Monseigneur Donatien Tcholé.
De toutes les façons, c'est tout à fait normal que, en venant dans les pourparlers, chacun vienne avec ses exigences. Nous trouvons ça normal au stade actuel. Le plus important, c'est la volonté de l'avant. Et on verra ce qui est faisable. Vous savez, l'expérience du dialogue de Saint-Sylvestre, on avait pris 2 semaines uniquement pour convaincre ceux qui avaient des conditions qui ne permettaient pas encore le dialogue. Mais par rapport au stade actuel, nous sommes satisfaits.
Oui, nous avons appris que même si vous proposez un pacte national, vous pensez rencontrer aussi les dirigeants de pays environnants. Est-ce que vous confirmez?
Absolument, c'est absolument nécessaire parce que il y a des choses telles que nous avons écouté les uns les autres jusque-là. Il y a cette double nécessité de régler certaines choses en interne sur le plan de la sous-région. Aller seulement au niveau de la sous-région, ce n'est pas la solution. Rester au niveau national, ça ne sera pas la solution. Et vous allez voir très prochainement d'ailleurs le contact que nous sommes en train de prendre dans ce sens.
Mais à l'interne, il s'avère qu'il y a des problèmes de contestation dans les partis du président de la RDC et les autres partis aussi. Est-ce que, comment vous réagissez? Est-ce que vous avez aussi rencontré l'ancien président et les autres partis?
Nous sommes en train de continuer la tournée. Et quand on a lancé l'initiative proprement dite, quand bien même on avait des contacts préliminaires pour annoncer la dynamique, c'est maintenant que nous sommes en train de rencontrer tout le monde. En ce qui concerne l'IDPS, je trouve ça absurde, étant donné que l'autorité morale a donné une position claire, rendue publique par la voix de la presse et la présidence même. S'ils avaient un avis contraire, ce serait à lui qu'ils devaient s'adresser. Et là, ça paraît un imbroglio. Donc, de toutes les façons, chacun assumera ses responsabilités devant l'histoire.
Même le porte-parole du gouvernement.
Nous ne pouvons pas, à ce stade, arrêter l'initiative à cause des exigences des uns des autres, parce que le pays, il faut le voir en grand.
Monseigneur Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale CENCO, joint à Goma par Eddy Isango.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les conflits fonciers ont pris de l'ampleur ces dernières années en Côte d'Ivoire. De nombreux sont les Ivoiriens, victimes d'arnaques lors de l'acquisition des terrains qu'ils prennent souvent avec des prêts. Une situation que l'État ivoirien a du mal à endiguer. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomignon, s'est penché sur le sujet. Son reportage.
Depuis quelques jours, à Cocody, dans le quartier de Diorobité, un conflit foncier oppose deux protagonistes qui revendiquent le même terrain. La première protagoniste dit avoir acheté ce terrain depuis 2015 avec tous les papiers. Mais depuis 2021, elle est opposée à un autre acquéreur qui dit avoir acheté ce même terrain dans les normes. Assitou Traoré, propriétaire de terrain à Cocody.
Ce monsieur-là m'a appelé en 2020 pour dire qu'il veut payer mon terrain. Je lui ai dit je ne vends pas mon terrain. À ma grande surprise, en 2021, on dit qu'il a un ACD. En coup, il a demandé un ACD. Je suis parti faire opposition en 2021. En 2024, j'arrive pour faire mon ACD. J'ai déposé mes dossiers. Ça a été refusé au profit de ce monsieur.
Ce n'est pas la première affaire dans laquelle le deuxième protagoniste est impliqué. Un conflit foncier l'oppose également à une autre personnalité, en l'occurrence un imam. Cissé Almami, imam.
Je vais sur le terrain, je vois qu'il a fait une clôture et des baraques sur le terrain. Je ne peux pas faire d'ACD, j'ai fait une opposition. Malgré mon opposition au ministère, l'ACD a continué son cours et le monsieur, il a eu l'ACD. Heureusement, il n'a pas payé l'alignation pour que l'ACD soit à son nom. J'ai fait une autre opposition. Et quand on lui demande, monsieur, vous avez payé votre terrain dans la main de qui ? Dans la main de qui ? Le monsieur, il ne répond pas.
L'ACD, qui signifie arrêté de concession définitive, est le seul et unique acte qui confère la propriété sur le domaine foncier urbain. Pour pouvoir l'obtenir, les acheteurs doivent suivre un certain nombre de procédures auprès des autorités. Bruno Conné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
Au stade de l'attestation villageoise, au stade de l'ADU même, vous n'êtes pas encore propriétaire. Ça veut dire que l'État ne vous a pas encore cédé la parcelle que vous convoitez. Vous êtes dans un lotissement approuvé, vous avez une attestation, il n'y a pas de litige sur le lotissement en question. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'entamer la procédure d'accès à l'ACD.
Joint au téléphone, le deuxième protagoniste n'a jusqu'à présent pas encore donné sa version des faits. Les autorités ivoiriennes ont quant à elles pris le dossier en main pour trouver une issue favorable. Ange Bijounomayon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président américain Donald Trump poursuit ses efforts pour convaincre le roi Abdallah II de Jordanie de soutenir son plan de reprise de la bande de Gaza et que le royaume accueille des Palestiniens de façon permanente. La réunion de mardi à la Maison-Blanche a eu lieu alors que le fragile cessez-le-feu entre le Hamas et Israël pourrait s'effondrer. Le reportage de Patsy Widakuswara, repris par Lionel Gaïma.
Les Palestiniens de la bande de Gaza craignent le retour de la guerre après la menace du Hamas de retarder la prochaine libération prévue d'otages israéliens et l'appel du président Donald Trump à annuler le cessez-le-feu. Samia Jamal, résidente de Gaza.
Nous en avons assez des guerres. Nous avons commencé à souhaiter mourir.
Alors que l'accueillait le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison-Blanche mardi, Donald Trump a réitéré son projet de prise de contrôle de la bande de Gaza.
Je pense que ça sera quelque chose de magnifique pour les Palestiniens. Ils vont l'adorer. J'ai très bien réussi dans l'immobilier. Je peux vous parler de l'immobilier. Ils vont l'adorer.
Les Palestiniens ainsi que la Jordanie, l'Égypte et plusieurs autres pays ont rejeté le plan de Trump visant à déplacer de force environ 1,9 million d'habitants de Gaza vers des pays voisins. Le roi Abdallah a toutefois décliné l'invitation de Trump à lui faire part de sa contre-proposition, se contentant de dire qu'il accueillerait immédiatement 2000 enfants de Gaza atteints de cancer ou d'autres maladies.
Je pense que nous devons garder à l'esprit qu'il existe un plan de l'Égypte et des pays arabes. Nous sommes invités par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à discuter à Riyad. Je pense que la question est de savoir comment faire pour que cela fonctionne d'une manière qui soit bonne pour tout le monde.
Il s'agit d'une réunion aux enjeux importants pour le roi Abdallah qui doit maintenir les liens avec un allié clé dont la Jordanie dépend pour son aide étrangère. Trump a laissé entendre lundi qu'il suspendrait l'aide, mais il a fait marche arrière mardi. De nombreux Jordaniens sont des descendants de Palestiniens déplacés. Si le roi Abdallah soutient le plan de Trump, cela créera des problèmes politiques et économiques majeurs et permettra au Hamas d'entrer, déclare Gaita Al-Omari de l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient.
Le Hamas pourrait créer non seulement des problèmes intérieurs en termes de terreur, mais aussi la crainte que la Jordanie ne devienne un point de départ pour des attaques contre Israël. Tous ces éléments créeront des menaces très très graves pour la stabilité de la Jordanie et peut-être même pour sa survie.
Al-Omari a déclaré que le plan de prise de contrôle de Trump n'incitait plus le Hamas à poursuivre le cessez-le-feu. Lundi, le groupe qualifié par les États-Unis de terroriste a menacé de retarder la prochaine libération d'otages, alléguant les violations de la trêve par Israël. Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont répondu par le même ultimatum.
La décision que j'ai adoptée à l'unanimité au sein du cabinet est la suivante. Si le Hamas ne rend pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et les forces de défense israéliennes reprendront des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement vaincu.
Israël remettra la bande de Gaza aux États-Unis après la guerre, a déclaré Trump.
Nous n'achèterons rien. Nous allons l'avoir et nous allons le garder et nous allons nous assurer qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura pas de problème et que personne ne le remettra en question.
Beaucoup d'habitants de Gaza ne sont pas d'accord.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Premier ministre indien Narendra Modi sera cette semaine à Washington pour une visite qui doit être dominée par les questions liées au commerce, à l'immigration, à la défense et aux relations stratégiques. L'Inde, qui a bâti un solide partenariat avec les États-Unis, s'attend à des turbulences sur certains dossiers comme le commerce, mais espère que les préoccupations géostratégiques communes contribueront à maintenir des liens stables. Anjana Pasricha de la VOA nous propose ce reportage depuis New Delhi. Récit Jacques Aristide.
New Delhi se dit optimiste quant à la rencontre prévue entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Vikram Misri, secrétaire aux affaires étrangères de l'Inde.
Je pense que la visite du Premier ministre aux États-Unis donnera une nouvelle impulsion et une orientation renforcée à ce partenariat si important.
M. Modi entretenait des relations chaleureuses avec M. Trump lors de son premier mandat. Des questions contentieuses comme le commerce et l'immigration figurent parmi les priorités du président américain, qui a d'ailleurs décrit l'Inde comme un pays qui impose des droits de douane très élevés. New Delhi prend des mesures pour répondre à ces préoccupations. Plus tôt ce mois-ci, l'Inde a indiqué qu'elle réduirait les droits de douane sur certains produits qui bénéficieront aux exportations américaines, notamment les motos et voitures haut de gamme. D'autres concessions sont susceptibles d'être envisagées d'après des analystes. Chintamani Mahapatra, fondateur de l'Institut Kalinga d'études indo-pacifiques.
Évidemment, un grand négociateur et fin stratège, Trump demandera davantage. L'Inde s'est aussi très bien négociée. Nous tenterons de parvenir à un compromis.
Le mois dernier, le président Trump a exhorté le Premier ministre Modi à acheter davantage d'équipements de sécurité américains. New Delhi, premier importateur mondial d'équipements militaires, a en effet besoin de divers systèmes d'armement. Raoul Bedi, expert en défense basé à New Delhi.
Les États-Unis s'inquiètent du fait qu'ils perdent des parts de marché dans les achats militaires indiens, d'où la pression accrue. Il pourrait y avoir des initiatives pour l'acquisition d'avions de transport, d'avions de surveillance pour la marine et peut-être même de chasseurs, ainsi que de nombreux transferts de technologies pour des moteurs d'avions et des véhicules blindés d'infanterie.
L'Inde a également accepté de reprendre les migrants en situation irrégulière renvoyés des États-Unis, mais elle demande un meilleur traitement pour eux lors des futures expulsions. Elle veut aussi protéger les canaux légaux d'immigration pour les travailleurs qualifiés et les étudiants indiens se rendant dans les universités américaines. Subramaniam Jayashankar, le ministre indien des Affaires étrangères.
Les relations entre les peuples constituent le socle de notre partenariat toujours plus profond avec les États-Unis.
Pour M. Modi, sa rencontre avec le président Trump est une occasion de renforcer les succès de leur collaboration au cours de son premier mandat. L'Inde et les États-Unis, partenaires dans l'Indo-Pacifique, ont des préoccupations communes face à la Chine. Chintamani Mahapatra de l'Institut Kalinga à nouveau.
C'est le président Trump qui a ressuscité le Quad alors qu'il était inactif depuis près de 10 ans. Il en est le principal artisan. C'est un domaine où l'Inde et les États-Unis partagent de nombreux intérêts pour assurer la paix, la stabilité et contribuer à la prospérité de la région Indo-Pacifique.
En s'appuyant sur ses intérêts communs, les entretiens de cette semaine sont l'occasion de mesurer si les relations entre l'Inde et les États-Unis continueront de se renforcer durant le second mandat de M. Trump.
Et c'est la fin de cette édition Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique avec Alexandrine Collognon à la présentation. Merci à vous pour votre fidélité et continuez de vivre l'actualité sur VOA Afrique et voafrique.com.